Géopolitique.
Sophie Malibeau.
Entrée en guerre, guerre asymétrique, guerre contre le terrorisme, prise de sanctions, levée de sanctions. Qu'est-ce qui gouverne au fond ces décisions prises le plus souvent collectivement ? Au-delà du rationnel, quel rôle les émotions jouent-elles dans ce processus ? Pour débattre de la question, nous avons invité le politologue Dominique Moisier au téléphone, auteur de Géopolitique des émotions, édité une première fois en 2008 et réédité en 2015 par Champ Actuel à la lumière des événements qui ont marqué la France cet hiver avec les attentats à l'origine d'une vague d'émotions sans précédent en France et au-delà. Nous avons aussi autour de la table Bertrand Badie, professeur des universités à Sciences Po et auteur notamment d'un essai intitulé « Le temps des humiliés ». Pathologie des relations internationales, un ouvrage publié en 2014 chez Odile Jacob. Et puis, Éric Delbecq, expert en intelligence stratégique, auteur, avec Laurent Combalbert, du livre « Le spectacle de la peur », sorti en mai dernier chez Jacques-Marie Lafont, éditeur. Alors, nous ouvrons le débat sur l'importance que revêtent les émotions, pour le meilleur et pour le pire. Nous tenterons d'analyser leur impact sur les événements, sur la prise de décision par les États et les instances internationales. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, je souhaiterais tout d'abord qu'on s'attache à un mot, ce qui ponctue l'actualité, un mot chargé d'émotion s'il en est, le terrorisme. Est-ce que justement du fait du contenu émotionnel qu'il véhicule, il n'est pas en lui-même ce mot source de problème ? En même temps, on aurait bien du mal à s'en passer, Éric Delbecq.
Oui, c'est vrai que ça fait partie de ces mots valises, c'est-à-dire à la fois ça traduit des significations multiples qui est parfois difficile de rassembler, de trouver des dénominateurs communs, et puis en lui-même, il est assez confusant. Bon, il a une origine très très claire, hein, terroriste, ça vient de terreur, propager la terreur, et puis le phénomène lui-même a pour principal objectif de susciter la peur, de parasiter les capacités de réflexion, de produire de la frayeur, d'avoir un coup psychologique. Donc bien évidemment, il n'est pas très propice en lui-même à rationaliser, ça c'est clair.
Vous êtes de cet avis, Bertrand Badie ?
Oui, moi je serais même un petit peu plus radical, c'est-à-dire que la notion de terrorisme renvoie d'une part à tellement de situations variées, vous venez de le dire, et surtout à une dénonciation a priori, c'est-à-dire c'est un mot qui est devenu extrêmement connoté, c'est pratiquement une stigmatisation. Pour résumer, on pourrait dire que le terrorisme, c'est la violence de celui qu'on n'aime pas, et la résistance, c'est la violence de celui qu'on aime et auquel on adhère. Et du coup, bien souvent, les mêmes personnes passent d'une catégorie à l'autre. Il ne faut pas oublier que pendant la Seconde Guerre mondiale, ceux qui prenaient le risque de la résistance étaient qualifiés de terroristes. Et c'est un phénomène que vous retrouvez dans beaucoup de systèmes autoritaires aujourd'hui, qui, en quelque sorte, soldent les comptes de leur opposition en les taxant de terrorisme. Moi, je préfère avoir une approche plus neutre de ce phénomène dont nul ne peut contester qu'il renvoie à quantité de réalités déterminantes de notre agenda international, pour parler de violence internationale diffuse ou fragmentée. C'était commode du temps où les relations internationales se caractérisaient par un monopole ou un quasi-monopole par l'État de la violence internationale. Aujourd'hui, l'État est minoritaire dans la production de la violence internationale. C'est infiniment paradoxal. Et du coup, il apparaît comme objet pour nous autres internationalistes quantité de formes de violence disséminées, de violence diffuse, de violence fragmentée et de violence qui correspondent à des souhaits, à des options stratégiques, aussi à des valeurs qui peuvent être très très différentes et aller du totalitarisme extrême à, au contraire, une volonté émancipatrice. Tous les guerres de décolonisation étaient ouvertes par des terroristes.
Tout à fait. Alors, Dominique Moisy, comment est-ce que vous comprenez le fait que nos sociétés, et notamment dans les moments où elles sont victimes du terrorisme, comment vous expliquez qu'elles recourent à ce terme qui, on vient de l'expliquer, finalement, est paradoxal, puisque c'est reconnaître, finalement, être terrorisé, donc c'est un aveu de faiblesse en soi, l'utilisation de ce terme terrorisme.
Oui, d'abord je dirais que le terrorisme est un moyen, et sur ce plan, l'expression « guerre contre le terrorisme », c'est l'équivalent de dire, pendant la Deuxième Guerre mondiale, « nous sommes en guerre contre les Panzerdivisions de l'Allemagne. Non, on était en guerre contre le nazisme et contre ses ambitions. Donc il y a une grande ambiguïté à transformer ce qui n'est qu'un moyen de guerre, la stratégie du faible au fort, pour aller à l'essentiel, en un ennemi en lui-même. Non, c'est ça qui me gêne le plus. Et au fond, je rejoins ce qu'a dit Bertrand Badi, mais par un angle d'approche différent.
Mmh. Est-ce que c'est une commodité de langage, une faiblesse, une facilité, Éric Delbecq, de recourir à ce terme qui finalement enfonce les victimes toujours un peu plus?
Oui, bah c'est une communauté de langage d'ailleurs pour l'ensemble des acteurs du champ. C'est y compris une communauté de langage pour les pouvoirs publics. Je creuserai un peu ces questions sur lesquelles je suis totalement d'accord. Les modes opératoires en plus eux-mêmes ont parfaitement changé. Il faut se rappeler qu'à l'origine, le terrorisme, et on lisait tout à l'heure, réfère au mot de terreur et référait à des régimes organisés qui pratiquaient la terreur, alors qu'aujourd'hui ce sont des acteurs individualisés. Donc on voit bien que effectivement ça n'a rien à voir, que ce qu'on appelle le terrorisme lui-même a subi un certain nombre de vagues de mutations. Donc en plus, quand on parle du terrorisme dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40, dans les années 70 ou aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir. Donc pourquoi, là je m'avance un peu, mais c'est vraiment une conviction profonde, pourquoi on emploie ce mot? Parce que finalement, on a beaucoup de mal à nommer ce que Bertrand Badi disait tout à l'heure, ces phénomènes de violence internationaux. On a beaucoup de mal à les nommer, on a beaucoup de mal à les expliquer, on a beaucoup de mal à les assumer. Donc il est très commode d'expliquer que c'est du terrorisme, parce que le terrorisme, ça fait peur, c'est très facile à mettre en avant, c'est très facile de susciter de l'émotion dessus, et on fait une grosse économie d'explication, de mobilisation et de rationalisation.
Alors en même temps, Dominique Moisy, vous démontrez que on aurait tort de faire l'impasse sur ces émotions que suscite le terrorisme. Il faut pouvoir comprendre, c'est un moyen aussi d'anticiper et donc d'analyser les réactions. Dominique Moisy.
Oui, non, je crois dans le livre que j'ai écrit il y a quelques années, le sous-titre était « La géopolitique de l'émotion, comment les cultures de peur, d'humiliation et d'espoir façonnent le monde ». Eh bien, dans le terrorisme, vous avez la rencontre entre une culture d'humiliation, celle du terroriste, et la culture de peur de ceux qui sont soumis aux attaques des terroristes. Et il y a une sorte d'interaction dialectique. Le terroriste veut bien entendu faire peur, mais veut susciter aussi la réaction extrême de celui qui l'a attaqué, en espérant qu'il va ainsi réunir contre lui tous ceux qui ne sont pas nécessairement favorables au mode opératoire des terroristes. Et donc, tout problème pour les nations attaquées, c'est de se défendre elles-mêmes, de rassurer leur population, sans bien entendu réunir contre elles ceux qui prétendent s'exprimer, dans le cas aujourd'hui, d'un islam radical. Donc, comment résister aux radicaux sans entraîner ceux qui ne le sont pas dans le camp du radicalisme par un sentiment global d'humiliation?
Bertrand Badi veut vous répondre.
Répondre, c'est beaucoup dire. Ce que je voudrais, c'est peut-être relativiser la référence à la peur, parce que la peur recouvre beaucoup plus d'aspects de la vie internationale que le seul terrorisme. L'équilibre de la terreur, hein, justement, l'équilibre de la terreur désignait la peur que l'on avait, ceux de ma génération, en tous les cas, d'une éventuelle guerre atomique. Tout phénomène militaire enclenche la peur. Un régime autoritaire fait peur et vit par la peur. C'est-à-dire que la peur est un phénomène qui est instrumentalisé à peu près dans toutes les formes d'action politique possible et imaginable, qu'elle soit implicite ou qu'elle soit explicite. Moi, ce que je crois paraît important, c'est cette peur supplémentaire, ce surplus de peur qui vient du fait que le terroriste est souvent mal connu, mal identifié, est un acteur qui n'est pas vraiment un partenaire, avec qui on peut pas parler, avec qui on peut pas passer de compromis ni de transactions, que ces violences nouvelles qui affectent le jeu international proviennent d'acteurs non étatiques et non institutionnalisés, ça crée peut-être une peur supplémentaire, et en tous les cas, ça définit ces nouvelles pratiques. Après tout, quand Brejnev était l'homme qui pouvait appuyer ou ne pas appuyer sur le bouton de l'arme atomique, on savait qu'il y avait le téléphone rouge, qu'on pouvait parler avec lui, qu'il y avait des instances internationales, qu'il y avait un droit international, même s'il n'était pas respecté. Aujourd'hui, effectivement, ce que l'on appelle communément le terrorisme renvoie à des acteurs quasi invisibles et avec lesquels il est extrêmement difficile de négocier. Et ça renvoie, à mon avis, à la vraie question qui est que aujourd'hui, ce ne sont plus tellement les États qui mènent le jeu international ou qui mènent la danse, ce sont les acteurs sociaux, ce sont des sociétés. Nous ne sommes plus dans des relations internationales, nous sommes dans des relations intersociales. Et les relations internationales créent des foyers d'incertitude un peu partout.
Et Éric Delbecq, vous étudiez à la loupe ces phénomènes, ce qu'on appelle par exemple le phénomène du loup solitaire et cette interaction plus ou moins établie entre des réseaux. Vous avez également étudié le phénomène d'accélérateur énorme que jouent les réseaux sociaux à cet égard.
Oui, le loup solitaire d'ailleurs qui n'existe pas, mais on aura peut-être l'occasion de le redire. Mais je crois très important de creuser cette idée que donnait Bertrand Badie et qui pour moi est fondamentale. On sort d'un 20e siècle, et quand je dis 20e siècle, c'est jusqu'à la fin de la guerre froide, où on pouvait, quoi qu'il arrive, assigner en quelque sorte un espace à la peur. On pouvait localiser la peur, on pouvait la rationaliser, on avait des méthodes pour la gérer, on avait effectivement un dialogue avec des ennemis identifiés. Or, quelque chose qui nous fait peur, à partir du moment où on est capable de le rationaliser, nous fait quelque part un peu moins peur. Aujourd'hui, la question, c'est quelle grille de lecture on a de cette violence internationale? Eh bien, finalement, on en a un peu, parce que elle est diffuse, parce que on fait de moins en moins d'efforts pour la comprendre véritablement. L'exemple du loup solitaire est excellent. Il n'y a rien de plus faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un individu, même s'il agit de manière isolée dans l'acte, a baigné, ne serait-ce que dans un climat idéologique, c'est bien le cas des salafistes ou djihadistes, c'est-à-dire qu'ils peuvent être connectés à un certain nombre de disséminateurs d'une idéologie de haine, d'appel à des méthodes dites terroristes, même si le mot est impropre. Donc il n'est pas du tout solitaire. On est sur des modes d'action où il peut être effectivement agir plus ou moins seul, avec plus ou moins de monde, et on n'est plus sur des réseaux organisés. Mais c'est très perturbant, y compris pour les services de l'État. La machine de l'État a été faite pour lutter contre des phénomènes institutionnels, structurels, quasi pyramidaux. Et là, on se trouve face à des gens dont on comprend qu'ils appartiennent à une mouvance, mais on est incapable de dire à quel moment ils vont s'activer, parce qu'ils sont pas véritablement activés par des organisations structurelles et traditionnelles.
On reviendra sur les principaux mouvements dont on parle aujourd'hui, Al-Qaïda, l'organisation de l'État islamique. Auparavant, je voudrais vous interroger, Dominique Moisy, sur cette notion que les terroristes se recrutent en général dans le camp des humiliés, entre guillemets. Et vous faites donc du conflit au Moyen-Orient la matrice des relations internationales, génératrice d'émotions telles qu'elles alimentent le conflit et son exportation, Dominique Moisy.
Oui, mais je voudrais revenir sur deux propos tenus par Bertrand Badie. Le premier, la spécificité de la peur par rapport aux terroristes. Ça tient au fait que non seulement nous sommes des cibles du terrorisme en Europe, mais nous sommes aussi le berceau de terroristes. Et ce qui est nouveau pour nous, c'est que le terroriste, c'est pas seulement l'autre absolu, mais c'est celui qui est venu de l'école de la République, est né en France, est citoyen français ou est citoyen britannique ou citoyen scandinave, etc. Donc je crois qu'il y a cette dimension qui ajoute un surcroît de peur. Au fond, la terreur peut venir tout autour de moi et d'un moment à un moment où je l'attends le moins. Le deuxième point, c'est quand même, oui, bien sûr, l'État n'est plus le seul cœur des relations internationales, mais on vient de voir il y a quelques jours, à travers l'accord entre l'Iran et la communauté internationale, que quand même l'État conservait une centralité et un rôle incontournable.
Affaire à suivre.
Voilà. Pour revenir sur le Moyen-Orient, oui, c'était le point de départ, le choix que je fais d'étudier les émotions. Je me suis rendu compte qu'on ne pouvait absolument pas comprendre le conflit israélo-palestinien si on le traitait exclusivement en termes de territoire, de souveraineté, d'accès à l'eau, de frontières, etc. C'était vraiment un conflit émotionnel entre deux calendriers, deux logiques, deux perceptions qui sont à bien des égards irréconciliables.
Mais en fait, Dominique Moïsi, toutes les populations, tous les pays du monde ont connu leur moment d'humiliation. On va pas repartir jusqu'à l'Empire romain, les Ottomans, les Perses, hein, avant d'être les Iraniens, les Soviétiques, sans parler de la Grèce.
Pourquoi les Chinois.
Exactement.
Mais au fond, il y a des peuples qui utilisent l'humiliation, en quelque sorte, pour sortir par le haut, qui considère que vous m'avez humilié, eh bien vous allez voir, je suis meilleur que vous ne le pensez, et je vais vous montrer ce que je peux faire. L'Asie a été humiliée par l'Occident, et le miracle asiatique est en partie le produit de cette humiliation. Et d'ailleurs, la volonté des Chinois, des Coréens, de montrer aux Japonais qu'ils n'étaient pas les seuls à pouvoir s'en sortir économiquement au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Alors qu'au contraire, il y a des populations qui se sentent à ce point humiliées qu'elles ne peuvent pas considérer à s'en sortir. Voilà, il y a cette formule qui m'a beaucoup frappé du frère d'un kamikaze du 11 septembre qui disait « Mon frère voulait réussir dans la société et entrer dans Wall Street, et s'il n'y arrivait pas, il voulait détruire ses tours, symbole d'arrogance. » Donc c'est l'idée.
Je me permets de vous couper parce que je sais que Bertrand Badie et Éric Delbecq, tour à tour, souhaiteraient réagir.
Je vous en prie, j'ai parlé trop longtemps.
Je vous en prie, Bertrand Badie.
Oui, je crois qu'il y a deux sens à humiliation. Il y a l'humiliation, je dirais, banale, familière, quotidienne, qui apparaît dans tous les rapports sociaux, qui est universelle, transculturelle, transhistorique. Vous avez raison, tout à l'heure, vous avez dit tout le monde a toujours été humilié. Et puis, il y a quand même cette séquence historique qui est la nôtre. Alors, depuis quand exactement? Depuis le congrès de Vienne, ou plus en recul, depuis Westphalie ou depuis Versailles, je n'en sais rien exactement, il y aurait beaucoup d'analyses à faire, où l'humiliation est devenue un instrument reconnu de la diplomatie. C'est-à-dire une façon d'assigner à l'autre un statut inférieur à celui dont on dispose. Et ça, c'est tout le drame actuel des relations internationales. Humilier la Grèce dans l'affaire que nous avons connue tout à fait récemment, c'était lui rappeler qu'elle n'avait pas le pouvoir de décider, même en ce qui concerne le fonctionnement de sa propre société. Ça, c'est quelque chose de nouveau dans les relations internationales. Les relations internationales, autrefois, ne fonctionnaient pas comme ça. Il y a cette espèce de technicisation de l'humiliation, technique de diplomatie, de politique étrangère, et c'est ça qui crée du traumatisme. Ce que nous avons fait aux Grecs la semaine dernière peut très bien provoquer une violence que vous appellerez peut-être terroriste dans 15 ou 20 ans.
Éric Delbecq, vous qui êtes aussi un observateur de l'intelligence économique, ce thème de l'humiliation est un thème qui vous inspire?
Oui, tout à fait. Mais alors, en revanche, deux petites remarques. La première par rapport à ce que disait Dominique Moïsi tout à l'heure, dont je comprends bien le propos, hein, mais juste une petite nuance. Je crois qu'il est très important aussi de dire que, pour parler sans phare, le mythe de la cinquième colonne, c'est très ancien. Déjà pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre froide, ce dont il est question aujourd'hui, c'est que on pouvait avoir des canaux, y compris vers cette cinquième colonne supposée, alors qu'aujourd'hui, ceux qui sont parmi nous et qui peuvent produire, par exemple, de l'acte terroriste, on ne sait plus bien comment les identifier, comment leur parler. Donc ça, c'est une première remarque. Deuxièmement, et là, c'est un petit peu plus le technicien de ces choses-là qui parle, il faut pas sous-estimer le fait que les modes d'action terroristes que nous voyons aujourd'hui sont issus aussi d'un héritage extrêmement opérationnel qui est dû, j'aimerais le rappeler parce que c'est un point très spécifique, à l'évolution depuis des années de la puissance technologique militaire américaine. Hein, faut quand même se rappeler qu'un certain nombre de gens ont observé très concrètement qu'à partir du moment où vous faites face à une armée très technologique, à un rouleau compresseur, à quelque chose qui vous laisse pas beaucoup d'espace en termes quantitatifs, vous allez utiliser les interstices. Et ça a donné quand même beaucoup d'actualité à des modes, Dominique Moïsi le rappelait à juste titre, qui sont de la guerre asymétrique et de l'action du faible au fort. Et cette question technique, elle existe aussi.
Mmh. On va y revenir dans la seconde partie de cette émission géopolitique, donc avec Dominique Moisy, politologue, auteur d'une géopolitique de l'émotion, Bertrand Badie, spécialiste des relations internationales, et Éric Delbecq, expert en intelligence stratégique. Nous reprenons la discussion juste après cette page d'actualité sur les antennes de RFI.
Géopolitique, Sophie Malibaud.
Nous voici toujours en compagnie de Dominique Moisy, auteur de Géopolitique des émotions, édité une première fois en 2008 et réédité au mois de mai 2015 par Champ Actuel. Bertrand Badie, professeur des universités à Sciences Po et auteur notamment d'un essai intitulé « Le temps des humiliés, pathologie des relations internationales » en 2014 chez Odile Jacob. Et puis Éric Delbecq, expert en intelligence stratégique, auteur avec Laurent Combalbert du livre « Le spectacle de la peur » sorti en mai dernier chez Jacques-Marie Lafont, éditeur. Alors nous reprenons notre débat sur la place des émotions dans la vie internationale, dans l'actualité internationale. Éric Delbecq, vous étiez en train d'évoquer l'effet induit par le développement de la puissance militaire américaine et le développement technologique notamment, et de ce qu'on appelle communément la guerre asymétrique.
Oui, c'est, alors là on sort bien évidemment de l'évaluation morale. Et on se concentre sur un point technique. Si on n'est plus capable d'égaliser les potentiels, et objectivement, techniquement, c'est quand même compliqué de tenir face à l'aspect hyper quantitatif de l'armée américaine, face au déferlement de bombes, parce que contrairement à ce qu'on dit, le bombardement chirurgical américain est généralement pas très chirurgical, et le carpet bombing, ça existe quand même encore.
Voilà, c'est tout à fait intéressant d'ailleurs ce type d'expression, privé d'émotion, on a élagué les émotions, on parle...
Enfin pour soi, voilà. C'est-à-dire qu'on fait une guerre chirurgicale d'abord pour éviter un grand nombre de morts américains, et éventuellement
victimes,
pour maximiser...
Voilà.
Ceux d'en face, donc faut quand même pas effectivement être trop esclave de ces expressions.
Et les victimes sont appelées d'ailleurs dommages collatéraux.
Oui, ce que je veux dire c'est que la question est d'aseptiser le vocabulaire
à
usage des opinions publiques, en l'occurrence là, des États-Unis. Bon, ça c'est important de le dire. Le zéro mort c'est quand même pour soi, c'est pas forcément pour les autres, même si on maintient dans l'illusion que... Donc techniquement, quand on a affaire à ce type d'armée et qu'on ne peut plus être dans la symétrie, eh bien, n'importe quel adversaire va essayer de se situer dans les interstices de cette puissance et va être dans le rien technologique. Bien évidemment qu'aujourd'hui, dans les modes d'action des terroristes, on va préférer, comme on dit dans les services de renseignement, les boîtes aux lettres mortes, on va éviter de s'appeler en permanence sur le téléphone portable ou de se passer des mails, on va faire du réseau humain et on va un maximum décentraliser le dispositif. C'est ça qu'il faut expliquer dans le phénomène dit faussement du loup solitaire, c'est que il faut qu'il y ait un maximum d'autonomie des personnes qui sont capables de passer en mode offensif pour être furtif, pour être le moins détectable possible. Donc finalement, ceux qu'on appelle les terroristes sont parfaitement en phase avec la modernité. Ils ont tiré toutes les leçons de la société à la fois en réseau et du mode d'action hyper technologique américain. Et là, on est dans le cœur des techniques de guerre asymétrique. Donc ça joue un rôle fondamental dans la montée en puissance de ces mondes d'action qui sont liés certes à des idéologies, à des sentiments, à des émotions, mais qui ont aussi une part de froideur technique de comment on s'oppose à une puissance mécaniste.
Vous voulez réagir, Bertrand Badie?
Oui, c'est très important. C'est-à-dire que il ne faut pas effectivement surévaluer la part de l'émotion ni de l'idéologie. Et j'aime bien, en prolongeant l'idée que il ne s'agit pas de terrorisme et de violence décentralisée, travailler sur la notion d'entrepreneur de violence. C'est-à-dire notre monde est parsemé d'entrepreneurs de violence. Enfin, on connaît les plus célèbres, Al-Qaïda, ECMI, etc. Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur de violence? C'est quelqu'un qui est un stratège, un monstre froid, qui, comme il vient d'être très bien dit, maîtrise les techniques et a toutes les ressources nécessaires pour pouvoir affronter les États sur la scène internationale. D'autant que les États et les plus puissants n'ont plus aujourd'hui les moyens de gagner. Nous sommes dans un monde où les guerres classiques ne se gagnent plus, où se terminent par des matchs nuls, où les éléments les plus sophistiqués de la défense et de la puissance se trouvent mis au défi par vraiment plus petits et plus élémentaires que soi. Et donc il s'est construit dans le monde des entreprises de violence froides qui ont vraiment un calcul politique avant d'être au service d'une idéologie ou d'une émotion. Alors là où l'émotion reprend toute sa place, c'est effectivement dans le phénomène de l'adhésion. Mmh. Parce que on oublie aussi de dire que ces entrepreneurs de violence, monstres froids, ont un soutien social.
Oui.
S'ils n'avaient pas
de
soutien social, ça ne marcherait pas. On ne voit pas un entrepreneur terroriste s'installant dans le canton des Grisons, par exemple.
Ce qui se passe, et là je voudrais interroger Dominique Moisy, on se trouve face quand même à, avec ce contenu émotionnel, d'avoir d'un côté des gens qui deviennent des martyrs, entre guillemets, face à un monstre technologique des armées qui bombardent éventuellement avec des drones, en essayant d'expurger le vocabulaire pour les opinions occidentales de tout ce qui fait que la guerre est sale. Et on se retrouve avec cette mise en balance qui, sur le plan émotionnel, est totalement contre-productive, disons, qui ne peut faire que nourrir le système. Comment ça se fait que ça ne soit pas décrypté comme tel et qu'on n'adapte pas la réponse, Dominique Moisy?
Non, on l'adapte. Au fond, l'Amérique, au lendemain du 11 septembre 2001, surréagit et se lance dans des aventures militaires plutôt malheureuses en Afghanistan et encore plus en Irak. Arrivé de Barack Obama au pouvoir, on entre dans une nouvelle phase où, au contraire, le président dit « bon, ces interventions sur le terrain, c'est fini, je ne vais pas envoyer de nouvelles troupes, on a vu à quel point ça s'est mal passé, et d'ailleurs vous m'avez élu pour mettre fin à ce type d'intervention ». Mais en même temps, il continue de lutter contre les terroristes avec succès lorsque il élimine Bin Laden, et avec un succès un peu plus contrasté, ce sont les drones. Au fond, j'envoie des drones, ça m'évite d'envoyer des troupes, mais bien entendu, les drones, c'est pas très précis et il y a des dommages collatéraux. Oui. Et donc aujourd'hui, il y a un vrai débat aux États-Unis sur le rôle des drones. Est-ce que ces drones ne sont pas contre-productifs? Est-ce qu'on n'a pas perdu le Pakistan alors que sans doute l'Afghanistan est aussi en train de revenir par étapes vers les talibans?
Oui, alors parce que le problème, c'est la répétition du schéma. Avant de surréagir, est-ce que les États-Unis n'avaient pas minimisé, parce que Al-Qaïda ne date pas de l'attaque contre les tours jumelles, mais les attentats d'Al-Qaïda, il y en avait bien avant. Les États-Unis avaient même utilisé ces combattants-là pour lutter contre les soviétiques sur le terrain afghan. Est-ce qu'on n'est pas sans arrêt dans la reproduction du schéma, étant en ce moment face à un conflit qui prend des proportions inouïes en Syrie et en Irak, Bertrand Badi?
Oui, parce que le vrai débat, c'est qu'est-ce que ça veut dire succès face au terrorisme? Moi, je ne crois pas que l'élimination de Ben Laden soit un succès. C'est peut-être un succès dans la mesure où on voulait qu'il fût éliminé, mais c'est pas un succès contre le terrorisme, dans la mesure où ça change rien à la donne telle qu'elle est décrite dans cette émission depuis son début.
C'est un succès face à l'opinion américaine.
Oui, voilà, c'est ça, c'est un succès politique, c'est un succès, je dirais presque, de marketing politique. Mais la vraie seule question qui vaille, c'est comment retirer à ces entrepreneurs de violence leur clientèle. Sans clientèle, ils ne peuvent rien faire. Je disais tout à l'heure qu'un entrepreneur de violence qui se promènerait dans le canton des Grisons n'aurait pas grand chance de pouvoir réussir quoi que ce soit. Il faut que le terrain s'y prête. Et d'ailleurs, ce que je trouve remarquable chez Barack Obama, c'est qu'il a admis que si Daesh était dans cette situation de force aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait un soutien social. C'est-à-dire que le véritable problème, c'est que l'on n'a pas su voir que derrière cette violence nouvelle, il y avait des réalités sociales qui alimentaient ce type de violence. Si vous n'alimentez pas ces types de violences, elles resteront marginales et anecdotiques. Maintenant, si vous les combattez par des moyens classiques, parce que tout ça se complique, si vous les combattez par les moyens classiques, vous les renforcez. Combattre frontalement les entrepreneurs de violence comme on l'a fait en Irak, en Afghanistan, dans le Sahel, c'est effectivement les installer dans une société qui va à leur avantage. Lorsque les populations locales sont victimes de dommages collatéraux, pour reprendre la formule que vous utilisiez tout à l'heure, c'est un bonus pour les entrepreneurs de violence. Combien les talibans ont-ils pu recruter chez les victimes de drones américains et chez ces colonnes de réfugiés qui descendent de la province du nord-ouest du Pakistan jusque vers Karachi? C'est comme ça qu'on fabrique un soutien social aux terroristes. Et
Comment expliquer, Dominique Moïsi, que ce décryptage des émotions n'est pas fait par nous politiques, ou bien alors est-il fait justement avec en ligne de mire les opinions nationales et sans aller voir plus loin?
Je crois qu'on a des calendriers de politique intérieure dans nos démocraties. Et ce qui est très difficile, c'est de penser à long terme. Et donc, on a des cycles que l'on reproduit de manière malheureuse. La première étape, c'est de sous-estimer la menace. La deuxième étape, c'est de surréagir. Et la troisième étape, c'est sans doute peut-être aussi de surestimer la nature de la menace. Donc il y a ce cycle infernal. Maintenant, je suis d'accord avec Bertrand Badi, un des problèmes majeurs, c'est effectivement ce que nous faisons et l'impact négatif de ce que nous faisons. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire deux choses. Il faut à la fois être conscient du fait que les régimes despotiques, autoritaires, sur lesquels on s'appuie trop souvent, sont une des causes majeures de la montée des terroristes, des extrémistes, des fondamentalistes, des révolutionnaires, utilisez le terme que vous voulez, et en même temps vous devez leur résister. Ce qui s'est passé à Kobané, à la frontière entre la Turquie et la Syrie, quand les combattants kurdes, avec l'appui des bombardiers américains, ont repoussé les combattants de l'État islamique, a été important. Ça a été une rare défaite claire de Daesh. Et donc il faut à la fois les contenir sur le terrain, sans doute par des moyens classiques, et en même temps ne pas être dans le piège du soutien à des régimes despotiques qui sont la clé du problème à long terme.
Mmh. Comment sortons du cycle, Éric Delbecq ? C'est aussi une question sur laquelle vous travaillez.
Ah oui, ça c'est une grande question. Je pense qu'il faut d'abord remettre sur le tapis la nécessité de comprendre. Je crois qu'il faut beaucoup relativiser les succès des Américains en matière de lutte antiterroriste, effectivement. Alors pour le coup, ils ont une très bonne gestion politique des émotions, ils savent très bien les utiliser, parce que éliminer Ben Laden, c'est un vrai succès d'image, mais ça ne change absolument rien sur une organisation qui n'en est pas une, qui est un ensemble de franchisés, et dont Ben Laden n'était que le porte-parole. Donc ça n'a absolument aucun effet. C'est comme quand on vous dit on a éliminé le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4 de telle organisation. On n'est pas sur des pyramides bureaucratiques, ça ne veut rien dire. Après, on peut discuter est-ce que c'est légitime ou pas. Voilà, on peut avoir un avis divergent, mais il faut quand même se rappeler, par exemple, que l'usage des drones, c'est jamais que la réhabilitation de l'assassinat politique. On n'a pas de grands débats là-dessus. On a des très grands débats sur la société de surveillance. Là, il y a quand même deux, trois choses à dire. Et pareil, le fait d'éliminer avec un drone une personne ne met pas fin à un phénomène. Donc là, les États occidentaux réagissent par le spectacle, par l'émotion, par l'image, par un phénomène que René Girard nous avait parfaitement expliqué, cathartique, de bouc émissaire. Certes, on comprend que ça puisse avoir une nécessité. Je dis pas qu'il faut ne pas le faire. C'est un vaste débat géopolitique. Mais en tout état de cause, ça ne suffit pas du tout à traiter la problématique. Donc, il faut comprendre et il faut se rappeler d'une chose très importante qu'a dit à travers ses nombreux ouvrages et prises de parole publiques le général Desportes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute action militaire n'est que la phase de dialogue musclé d'un outil diplomatique qui, par ailleurs, doit proposer des choses en même temps que l'action militaire se déroule. Sinon, on peut avoir des succès tactiques très ponctuels qui n'auront aucune profondeur stratégique parce que rien ne les accompagne. Donc, il n'y a pas d'issue exclusivement militaire. Le militaire n'est qu'une étape d'une issue plus globale qui est une action générale dont, bien évidemment, le fer de lance est diplomatique, mais dans lequel il faudrait comprendre aussi les conditions économiques d'aménagement d'un certain nombre de territoires, d'inégalité dans l'échange mondial, parce que tout ça compte, et bien évidemment que c'est là-dessus que prospère ce qu'on doit appeler des organisations.
Je voudrais intervenir justement pour vous soumettre le cas de l'Iran. Est-ce que justement, avec ce cycle de négociations qui est en train de se terminer, est-ce qu'on n'est pas justement là, dans ce cas-là, en train d'éviter le schéma qu'on a reproduit dans toute la région à travers l'Irak, la Syrie? Est-ce qu'il y a un plus? Est-ce que on a tenu compte des opinions locales, de l'opinion des Iraniens qu'on a vu s'exprimer, même réprimée par l'État iranien? Est-ce que c'est un plus à mettre dans le bilan d'Obama, cette capacité à transcender finalement un ennemi de toujours?
Oui, oui.
Ce qui faisait un ennemi de toujours.
Vous avez tout à fait raison de poser le problème en ces termes. Pourquoi? Parce que derrière la complexité du dossier iranien, il y a quelque chose d'absolument essentiel. C'est-à-dire le fait d'accepter que des puissances hors champ occidental puissent accéder au plein statut de puissance.
Et cela faisait très très longtemps que l'Iran et les États-Unis
déjà du temps du chat, déjà du temps du chat, il y avait cette revendication d'être une puissance qui était toujours repoussée au nom de cette idée quand même qui nourrit nos relations internationales que seul l'Occident peut gérer, gouverner ce monde. À partir du moment où vous refusez à une puissance le statut d'acteur majeur ou d'acteur régional, ça dépend des tailles du champ international, vous poussez cet acteur dans des stratégies de retranchement qui sont des stratégies où on préfère la nuisance à la puissance. On ne reconnaît pas notre puissance, nous n'avons pas le droit de l'utiliser sur le terrain international. Donc, si nous ne pouvons pas faire usage de la puissance, nous allons utiliser la nuisance.
Mais alors, la question est tout de même de savoir si les sanctions ont été efficaces ou non.
Oh, moi, je dirais pas ça. Moi, je crois que c'est une question de volonté politique. Ce qui a été, mais là, on sort peut-être de notre sujet, ce qui a été déterminant, c'est qu'il y a eu une conjonction de volonté politique des deux protagonistes qui étaient l'Iran et les États-Unis.
J'évoque les sanctions parce que c'est tout de même l'instrument d'humiliation par excellence.
Absolument, mais c'est, je veux dire, cette diplomatie de punition a été grande pourvoyeuse de ce que vous appelez le terrorisme.
Dominique Moïsi?
Oui, je crois qu'en même temps, pour comprendre l'accord qui a été réalisé il y a quelques jours, je crois qu'il y a deux mots clés, le mot sanction et le mot Daesh. Sans les sanctions, il est probable qu'on ne serait pas arrivé à cet accord, car les sanctions faisaient mal à l'Iran et pouvaient conduire à même une sorte de déstabilisation du régime à un moment donné. Et deuxièmement, il y a eu Daesh. C'est-à-dire que on avait un ennemi commun et on pouvait intégrer l'Iran dans un schéma de lutte commune contre Daesh. Au fond, ce qu'on a de plus efficace contre Daesh, c'est les troupes directement iraniennes en Irak ou soutenues par l'Iran en Syrie. Donc c'est la rencontre de ces deux termes qui a quand même été décisive.
Bertrand Badie n'a pas l'air du tout d'accord avec vous sur ce point-là.
Je m'en doute, oui.
Éric Delbecq aussi voudrait réagir.
Oui, très brièvement, là je suis en désaccord avec mon ami Dominique Moïsi, sur les deux points. C'est-à-dire les sanctions ouvraient véritablement à ce que nous avons connu, c'est-à-dire une alternative où les sanctions ne sont pas levées et effectivement on va de plus en plus dans une diplomatie de nuisance qui finalement a permis à l'Iran de survivre durant toute cette période, ou alors on lève les sanctions et on joue la coopération internationale. Ce n'était pas un effet de contrainte, c'était un effet de choix. Quant à Daesh, moi ça je ne crois pas du tout. Pourquoi ? Parce que d'abord, je pense que les États-Unis ne sont pas prêts à ériger, ils l'ont dit et redit, Obama l'a redit récemment, à ériger l'Iran en allié dans la guerre contre Daesh, et parce que les Occidentaux sont en train de comprendre que le principe schmittien ne fonctionne pas au Moyen-Orient, les amis des amis ne sont pas forcément des amis, les ennemis des ennemis ne sont pas forcément des amis, les amis des ennemis ne sont pas forcément des amis,
c'est extrêmement compliqué.
Je ne pense pas. Non, moi ce que je pense, c'est qu'il y avait une volonté politique. Du côté américain, on voulait effectivement construire une nouvelle puissance régionale et éviter les effets de nuisance. Côté iranien, on voulait entrer dans la mondialisation, c'est tout, c'est tout.
Je laisse le dernier mot à Éric Delbecq, car nous arrivons au terme de
cette parfaitement
émission.
D'accord avec Bertrand Badie. Il y a des conditions structurelles et il y a des choses qui dérivent de nos propos précédents. Les Américains arrivent quand même progressivement à tirer les leçons du fait que la confrontation armée, comme on dit le hard power, a des impasses tout à fait fâcheuses. Ils ont quand même une forte capacité d'apprentissage. Il faut pas mésestimer, parce qu'on a dit un peu tout et n'importe quoi là-dessus, il est clair que les écoutes mondiales, le système PRISM, etc., n'est pas une grande préoccupation de l'administration américaine. En revanche, ils sont pas idiots. Ils se rendent bien compte qu'en termes d'image et de création de confiance, ça n'est pas fabuleux. Donc, il y a des facteurs très structurels qui militent pour que l'administration américaine dise « il est quand même plutôt globalement profitable d'essayer de devenir partenaire avec ces puissances-là que le contraire ». Après, il y a des phénomènes conjoncturels qui l'expliquent. Il y a effectivement un Iran qui ne peut plus rester dans cette situation. Pour le coup, c'est une logique de long terme qui prévaut.
Merci à vous, Géopolitique. Le débat se termine malheureusement pour aujourd'hui. Merci à nos invités Dominique Moïsi, auteur de Géopolitique des émotions, édité une première fois en 2008, puis réédité cette année. Bertrand Badie, professeur des universités à Sciences Po et auteur d'un essai intitulé « Le temps des humiliés, pathologie des relations internationales ». Et puis Éric Delbecq, expert en intelligence stratégique et auteur du livre « Le spectacle de la peur » sorti en mai dernier chez Jacques-Marie Lafon, éditeur. Merci également également à Nathalie Laporte qui réalise cette émission, à la documentation de RFI et Véronique Durand pour leur soutien actif. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.rfi.fr.